Le retour d'Erkal à Ouvéa. Après 6 mois sans liaison, la compagnie domestique est de retour sur l'île. Une première rotation effectuée ce matin entre Tontouta et Ouloup. À 4 semaines de procès, 8 affaires au programme. La 3e session d'assises de l'année s'ouvre la semaine prochaine. Le premier sommet Choose Outre-mer aura lieu le 1er octobre à Paris. La Nouvelle-Calédonie sera présente et nous en avons parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie. Les Francofolies débutent demain. 2 soirées de concerts au Centre culturel Tibaou avec notamment Jean-Louis Aubert en tête d'affiche. Et puis le sport avec du football. La 70e Coupe de Calédonie, c'est donc ce week-end. Qui de l'AS Cougnier ou d'Horizon Sport inscrira son nom au palmarès? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, Air Calédonie qui a retrouvé le tarmac de l'aérodrome d'Ouloup à Ouvéa. Après 6 mois de blocage dû au déménagement des activités de la compagnie domestique de Magenta à la Tontouta, un ATR d'Erkal a effectué ce matin un premier aller-retour entre la Tontouta et Ouvéa. Un soulagement pour les habitants de l'île et notamment Didis qui militait depuis plusieurs mois pour la reprise des rotations.
Pour la première rotation, elle était très contente après les 6 mois de souffrance déjà qu'on a vécu. Et là, en voyant l'avion arriver, on était tellement joyeux, mais même avec beaucoup d'émotions aussi, tu vois, l'avion qui atterrit. Et puis en même temps, avant ça, 1 heure avant, on était avec le collectif pour parler du déblocage. Et ça s'est très bien passé au niveau de la discussion et pareil, bien terminé avec la coutume, quoi. Un souffle nouveau, ça c'est bien, parce que ça y est, tout le monde est content, on va pouvoir circuler tranquillement pour prendre l'avion, et même pareil aussi pour la santé, surtout au niveau sanitaire. C'était plutôt ça pour eux, quoi, que ça a été très dur, quoi.
Ce premier avion à destination d'Ouvéa a décollé peu avant 10h de la Tontouta avec une poignée de passagers à bord. S'est posé sans encombre 30 minutes plus tard à Ouvéa. Le vol retour a été effectué dans la foulée avec 2 passagers seulement. Comme cela avait été annoncé, l'État a accompagné cette reprise du trafic aérien entre la Grande Terre et Ouvéa. Anaïs Haït-Mansour, directrice de cabinet du haut-commissaire.
Comme à chaque reprise de vol dans des aérodromes qui n'ont pas été desservis depuis un certain temps, voilà, on met toujours un petit dispositif. Ça a été le cas à l'île des Pins, ça a été le cas à Difou et là où à Ouvéa, voilà, pour assurer la sécurité publique. C'est un aérodrome qui appartient à la province des îles, donc qui s'assure de sa sécurité également. Voilà, mais nous, on est là dans une posture d'accompagnement, voilà, pour accompagner la décision qui a été prise par Air Calédonie et le gouvernement de réouvrir les vols à la suite d'une demande des coutumiers d'Ouvéa.
Et après l'île des Pins et Lifou, c'est donc Ouvéa qui voit reprendre les rotations d'Erkal. La compagnie domestique devrait recaler un programme de vol dans les prochains jours après ce premier aller-retour qui s'est déroulé sans problème.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 6 mois après le déménagement d'Erkal à la Tontouta et alors que certains coutumiers souhaitent que les vols atterrissent à Ouvéa, 53% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'on va arriver à une normalisation de la situation et une reprise de la desserte des îles Loyauté. Ils sont 47% à penser que ce ne sera pas le cas. Notre question du jour, à présent, les résultats des élèves français au test international PISA sont jugés préoccupants. Les élèves calédoniens ne sont pas pris en compte dans ce test. Selon vous, leur niveau est-il meilleur que celui des autres élèves français? Si vous pensez que le niveau des élèves calédoniens est meilleur, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Le coup de com' des avocats de 6 militants de la CCAT. Selon une information de Mediapart, ils ont porté plainte devant la Cour de justice de la République contre 4 ministres ou anciens ministres pour dénoncer les conditions de leur arrestation en Nouvelle-Calédonie. C'était en juin 2024 et leur transfert en prison en métropole. Elisabeth Noir.
La plainte vise 4 ministres ou ex-ministres qui étaient en fonction au moment de violences insurrectionnelles de mai 2024. Il s'agit de Gabriel Attal, qui était Premier ministre, de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, d'Éric Dupond-Moretti, qui était ministre de la Justice, et de l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, qui à l'époque était ministre des Armées. Selon les avocats de 6 militants de la CCAT, le gouvernement avait décidé de leur transfert bien avant que la justice ne l'ordonne. Ils demandent donc que les ministres soient poursuivis pour actes arbitraires, attentatoires à la liberté individuelle, abus d'autorité aggravés et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions. La plainte a été déposée devant la commission des requêtes de la Cour de justice de la République. C'est la seule juridiction qui puisse juger des membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est cette commission qui doit décider de la suite à y donner. En fait, tout laisse à penser qu'elle n'aboutira pas. Selon un juriste, les mesures de transfert et de privation de liberté sont prises in fine par les juges. Et même si l'autorité judiciaire avait exaucé une volonté de l'exécutif, cela ne ferait pas des ministres des responsables. Et puis il faut ensuite relever que la Cour de justice est saisie de milliers de plaintes et qu'elle ne donne suite que dans très peu de cas. Il s'agit en fait d'agitation médiatique de la part des avocats des 6 militants de la CCAT, dont le président du FLNKS, Christian Théin, alors que le parquet a fait appel, on le sait, du non-lieu général ordonné début juin par des juges d'instruction parisiens.
Dans l'actualité judiciaire, toujours 4 semaines pour la 3e session d'assises de l'année. C'est une semaine de plus que d'ordinaire pour répondre aux exigences nationales du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Nicolas Legrand.
Oui, l'objectif est assez évident, hein, traiter davantage d'affaires et donc limiter le délai entre l'instruction et le jugement. Auparavant, vous le disiez, les sessions duraient 3 semaines et pouvaient juger 6 affaires. On va donc passer à 8 pour les 2 de fin d'année et celle de 2027. La Cour se réunira là sur 4 semaines. Écoutez l'avocat général Pierre-Yves Michaud.
On va passer à des sessions désormais de 4 semaines chacune, ce qui permettra de juger davantage de dossiers par session. Donc nous aurons à l'avenir, chaque année, 4 sessions de 4 semaines qui devraient nous permettre, si tout va bien, de juger à minima 32 affaires criminelles. C'est une démarche qui s'inscrit à la fois dans une demande qui a été faite par le garde des Sceaux à toutes les cours d'appel et à toutes les cours d'assises de juger davantage de dossiers par année. Pour pouvoir réduire les délais de jugement, vous savez qu'il y a une vraie problématique de temps de jugement pour des affaires criminelles dans notre pays. Donc ça permettra de juger davantage d'affaires, donc de réduire les délais de jugement et de réduire les stocks en instance de jugement par les cours.
L'avocat général Pierre-Yves Michaud qui détaille le rôle de cette 3e session d'assises de l'année.
Nous avons 8 dossiers criminels qui concernent pour 4 d'entre eux des affaires de mœurs, des affaires de viol par conjoint, viol commis en état de récidive légale, viol sur mineur de 15 ans. 4 dossiers de viol qui, pour une fois, ne constituent pas la majorité des dossiers qui viendront à cette session. 2 affaires de coups mortels, une affaire de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et une affaire où nous avons 3 accusés, et une affaire de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et ensuite, nous avons un dossier d'appel pour une affaire de meurtre, recel de cadavres et modification de scène de crime. C'est un dossier qui vient de Wallis. Et un deuxième dossier de meurtre par personne en état d'ivresse.
La première affaire sera donc jugée mardi et mercredi de la semaine prochaine. Il s'agira d'une affaire de viol. L'accusé a reconnu avoir violé la copine de son cousin dans son sommeil. À 29 ans, c'est sa 2e comparution devant une cour d'assises. Il avait déjà été condamné pour viol par la cour d'assises des mineurs. C'était en 2016. En état de récidive, il encourt 30 ans de réclusion criminelle.
Et puis au chapitre des faits divers, cet incendie la nuit dernière dans les cuisines du restaurant Le West à l'Orphelinat. 5 véhicules, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pendant plus de 3 heures pour venir à bout du sinistre. Le bâtiment a été partiellement détruit. L'origine du feu est selon les pompiers probablement accidentelle. Une enquête a été ouverte et dans un communiqué, l'équipe du West annonce une fermeture de l'établissement pour une durée indéterminée. La Nouvelle-Calédonie sera présente au premier sommet Choose Outre-mer qui sera organisé le 1er octobre à Paris, à la Banque de France. Et nous en avons parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie, Elisabeth Noir.
Ce sommet Choose Outre-mer, c'est la déclinaison du sommet Choose France, voulu par Emmanuel Macron pour séduire les investisseurs étrangers. Ce sommet sera une vitrine pour les collectivités ultramarines, l'occasion de présenter leur savoir-faire, leurs richesses, leurs spécificités. Et à ce titre, la Nouvelle-Calédonie a de nombreux atouts, affirme le vice-président du gouvernement en charge de l'économie, Christopher Gigès.
On a cet esprit pionnier calédonien, ce savoir-faire en termes d'entreprise qui est unique dans les autres outre-mer. Et ça a été rendu possible notamment avec le secteur du nickel qui a augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises calédoniennes et le savoir-faire des entreprises calédoniennes qui est assez unique. On se flagelle au niveau du territoire sur la diversification de l'économie calédonienne. Il y a très peu d'outre-mer où on est en capacité d'avoir un secteur du commerce aussi développé, un secteur de l'industrie aussi développé, un secteur de la tech aussi développé, un secteur de l'agriculture qui mérite encore d'être progressé, mais qui existe quand même. Donc on a une diversification des activités économiques sur le territoire où on est en capacité de les présenter justement dans ce type de sommet parce qu'on est loin, on est très loin et souvent les investisseurs nationaux, européens ou d'ailleurs ne connaissent pas le territoire et donc on a été pendant des longues années très gâtés sur notre niveau de croissance parce que ça tournait tout seul. Aujourd'hui c'est le meilleur moment parce que ça ne tourne plus tout seul.
C'est le meilleur moment pour participer à ce sommet qui doit permettre de trouver des financements privés pour un certain nombre d'opérations ou de développements. Une trentaine d'entreprises devraient participer à ce rendez-vous qui peut être déterminant selon Bertrand Courte, le président du MEDEF-NC.
Il y a des entreprises qui ont des projets à porter, des projets à présenter, des compétences à présenter également, parce que mis à part le fait qu'aller peut-être chercher des financements, c'est aussi une journée d'échange. Il y aura toutes les entreprises du CAC 40 qui seront présentes. Il y a les fonds d'investissement privés qui seront présents. Il y a les banques publiques qui seront présentes, la BPI, l'AFD, Caisse des dépôts et consignations, etc., etc. Donc c'est aussi une vitrine pour démontrer aussi le savoir-faire calédonien. Il y a des entreprises qui seront présentes, qui n'ont pas forcément de projets à vendre, mais qui sont là aussi pour communiquer sur leur image et leur implication dans les territoires ultramarins et entre autres en Calédonie. Il y a des entreprises aussi qui vont aller chercher des compétences parce que c'est ce qui va aussi nous manquer pour la phase de reconstruction, c'est des compétences. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va aller chercher là-bas sur les choses outre-mer.
Et pour Pierre Kraft, chef d'entreprise, élu à la CCI et responsable de talent calédonien, la Calédonie a les moyens de se vendre au sommet Choose Outre-mer, notamment parce que c'est un territoire qui, dans son modèle, encourage l'innovation.
On n'est pas bloqué par des réglementations, donc on peut aller assez vite et on a la démonstration au travers de la French Tech que aujourd'hui on a cette fierté et donc ça veut dire que l'innovation c'est un élément important. On peut être aussi un beau laboratoire pour l'innovation, hein, c'est-à-dire expérimenter en Nouvelle-Calédonie des solutions qui permettront d'être international. Et je pense qu'on a quelque chose de bien de ce côté-là à vendre. D'autant plus, et on le voit dans le cadre de talents calédoniens, qu'on est capable d'attirer des gens qui viendront compléter cette filière. Si on crée effectivement de l'innovation, notamment dans le numérique, puisque l'innovation principalement portée très souvent, en tout cas dans le numérique, la capacité d'attirer des gens pour un bien-être ici et de continuer à développer des services et des solutions qui pourront être ensuite commercialisés sur d'autres territoires ou même sur le plan national. On a cette capacité. On peut être, je dirais, la Silicon Valley ou en tout cas, on peut être un hub numérique. Ça, je pense qu'on peut le faire pas seulement sur le plan régional, mais sur le plan international. Dans le domaine des services informatiques, on peut être ce qu'on appelle follow the sun, c'est-à-dire on peut créer en Nouvelle-Calédonie des sociétés qui permettront de satisfaire en journée, pendant c'est la nuit en Europe, les besoins de services. Et on sait que dans le domaine du numérique, il y a un potentiel mondial colossal.
Choose Outre-mer permettra des contacts directs entre les entreprises. Il autorisera aussi la recherche de financement privé sur des projets publics comme la STEP ou les câbles sous-marins. Et à l'occasion de ce sommet, la ministre des Outre-mer devrait également annoncer de nouvelles aides à la Nouvelle-Calédonie dans le domaine du développement économique. C'est ce que nous a dit Christopher Gigès, qui espère également des contacts dans le domaine du nickel.
Ça va être abordé sous l'angle, ce qu'on demande sur l'angle nickel européen et sur la filière européenne du nickel et comment on peut exporter du nickel calédonien à la fois en France mais également en Europe pour alimenter les gigafactories ou autres et qu'on soit compétitif sur cette partie. Ça a été demandé à l'État qui est des représentants d'entreprises dans ce secteur-là pour qu'on puisse continuer à échanger. Il y a eu une première réunion qui avait été organisée à Bruxelles sous le précédent gouvernement et c'est Alcide Ponga qui y était allé. Il faut qu'on continue à faire connaître aux investisseurs que quelque part au milieu du Pacifique, mais il y a du nickel européen qui aujourd'hui majoritairement part vers la Chine et c'est une absurdité sans nom.
Christopher Gégès qui annonce par ailleurs l'organisation dans les prochains mois d'un sommet Choose New Caledonia qui se tiendrait à Nouméa, un jeudi de l'économie disponible en audio et vidéo sur le site de RRB.
Les jeudis de l'économie aujourd'hui, le magazine Transparence demain, c'est Nicolas Metzdorf, le député qui sera votre invité, Elisabeth Noir demain, de retour de Paris où il a participé à la mission transpartisane. Il sera interrogé sur le renouvellement des aides financières de l'État à la Nouvelle-Calédonie, sur le contrat de responsabilité qui doit être négocié et plus généralement sur l'actualité calédonienne. Le député de la première circonscription, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis, autre rendez-vous d'antenne, il sera question de la situation financière et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie demain matin à 7h30. C'est Philippe Blaise, membre du gouvernement en charge du budget, des finances et de la fonction publique, qui sera notre invité du matin pour évoquer notamment les résultats de la mission transpartisane. Enfin, notez ce rendez-vous institutionnel. Les élus de l'Assemblée de la province Nord sont convoqués en séance publique demain à Conné. À l'ordre du jour, notamment la décision modificative numéro 2 de la province pour l'exercice 2026, mais aussi les modifications apportées à certaines dispositions des statuts de Nord à venir. Les élus doivent aussi habiliter le président à signer les conventions en vue de la rénovation de l'internat et du collège de Coumac, mais aussi du collège de Poya. 18h01, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La semaine de l'industrie revient. La Funk vous donne rendez-vous du 7 au 19 septembre dans une boutique éphémère de produits locaux, Galerie Centralma à Nouméa. Cosmétiques, artisanat, textiles, alimentaires, retrouvez tous vos produits du quotidien à petit prix. Également des jeux, des cadeaux et votre café viennoiserie chaque matin dès 8h. Toutes les infos sur funk.nc, F-E-I-N-C.nc et sur Facebook. Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Info Soir, Léo Fichou.
Une visite dans les coulisses de l'aquarium ce matin. La province sud a invité plusieurs délégations régionales présentes pour la 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature à visiter ces sites emblématiques. Et Charlotte Coulson, découvrir ces actions de préservation des espèces protégées.
Relâchée de cagou et de tortues au planning de cette matinée, la province sud a organisé au total 5 visites de terrain, dont une à l'aquarium des lagons, car l'établissement travaille en étroite collaboration, notamment dans le cadre du réseau échouage de la province sud, d'où l'importance de cette visite des coulisses de l'aquarium et du centre de soins, selon Kael Normandon, le président de la commission environnement à la province sud.
C'est 65 millions que la province sud donne chaque année pour le fonctionnement de l'aquarium, et en fait c'est très utile parce qu'au-delà de la politique des parcs sur les espaces terrestres, on a l'aquarium qui est une extension de notre espace marin et qui permet de valoriser de nombreuses espèces exceptionnelles à la fois dans le Pacifique mais aussi dans le monde. On a tout intérêt à partager les bonnes pratiques, notamment dans l'espace francophone qui est représenté aujourd'hui. Et notre intérêt aussi, c'est de partager de l'expérience parce que, on vous le disait, les tortues, elles sont mobiles, elles ont un certain nombre de mouvements dans le Pacifique et tout cet échange et toutes ces visites permettent à chacun d'être sensibilisé sur la question.
Et pour démontrer l'efficacité des programmes de préservation, les équipes ont procédé au relâcher de Georges, une tortue verte de 123 kilos qui a été retrouvée le 16 juin après avoir été percutée par un bateau et puis mordu par un requin. Marion Bossan est soigneuse à l'aquarium des lagons.
On a eu de la chance parce que en fait la carapace n'était pas très abîmée, donc grâce au docteur Isabella Lac, notre vétérinaire qui est intervenu dessus, les palettes natatoires postérieures étaient complètement déchiquetées et le docteur a fait un très beau travail de suture. Et là, c'est beaucoup mieux quand même, ça a très bien cicatrisé et avant, c'était vraiment des lambeaux. Et grâce à nos soins, hein, qui sont tous les jours, on nettoie les plaies, des antibiotiques, Georges est sauvé et tiré d'affaire. Et même s'il lui reste quelques cicatrices, il cicatrisera bien en mer.
Et ce matin, d'autres participants du forum ont pu assister à un relâcher de cagou au parc de la Rivière Bleue. D'autres visites étaient organisées à Bouraille ou encore à Dimbéa.
Et l'environnement, c'est aussi la gestion des déchets sur le territoire. Les membres du PROE, le programme régional océanien de l'environnement qui organise la 11e conférence des îles du Pacifique, ont rencontré des acteurs des filières déchets, notamment l'organisme Trécodec, Charlotte.
Trécodec, c'est un organisme qui gère et qui finance en partie les filières de déchets réglementés sur le territoire, car il faut pouvoir trier, traiter et tracer les déchets dans un souci de préservation de l'environnement. Et pour limiter les impacts sur la biodiversité, il existe en Calédonie une REP, une responsabilité élargie du producteur. Bernard Crenier est le PDG de Trécodec.
Au niveau du Pacifique, ça ne se fait qu'en Nouvelle-Calédonie. Même la Polynésie française ou Wallis-et-Futuna n'ont pas adopté le système de la REP, responsabilité élargie du producteur. C'est quelque chose qui a été adopté en métropole en 1990. Le principe, il est simple, c'est que vous payez une contribution au moment où vous mettez le produit neuf sur le marché et cette contribution sert à traiter la fin de vie. Au niveau du Pacifique, ça n'existe pas ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont plein de problématiques comme les nôtres. Ils ont des fois la double, la triple insularité. Ils sont beaucoup moins nombreux que la Nouvelle-Calédonie. Ils ont beaucoup moins de moyens. Ils sont venus s'inspirer de ce que l'on fait ici pour essayer de transporter chez eux des choses simples qu'on fait ici.
Une spécificité calédonienne qui a beaucoup intéressé les participants, notamment le PROE, qui est chargé de promouvoir la coopération régionale en matière d'environnement. Il était représenté par Hilary Boyce.
Pour nous, Trécodec est un superbe exemple. Les autres îles du Pacifique font face aux mêmes problématiques en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous avons des économies de petite taille, des coûts élevés liés au transport maritime. C'est difficile pour les gouvernements de collecter et de gérer les déchets de manière durable. Et c'est pour ça que nous souhaitons en apprendre plus sur la responsabilité élargie du producteur. On voit que ça fonctionne en Europe. L'UE affiche d'excellents résultats en matière de collecte, de réutilisation et d'application des principes de l'économie circulaire. Ce qui est bien en venant ici en Nouvelle-Calédonie, c'est de comprendre comment Trécodec a mis en œuvre une législation de type européen dans un petit État insulaire. Nous avons beaucoup à apprendre pour construire notre propre législation.
Et demain, les membres du PROE visiteront des entreprises locales de gestion des déchets. La délégation pourra, par exemple, découvrir des filières de traitement des pneus, des véhicules hors d'usage, des piles ou encore du verre.
Un mot de l'actualité culturelle avec le coup d'envoi demain de la 6e édition des Francofolies au programme. 2 soirées de concerts au Centre culturel Tibaou. Parmi les artistes cette année, Jean-Louis Aubert qui partagera la scène avec Elena, ce sera demain soir. L'ancien chanteur de Téléphone avait passé quelques jours en Calédonie il y a une 40aine d'années et il revient avec plaisir. Demain, c'est un vrai concert de festival qu'il proposera au public de Nouméa.
Un concert de festival, alors on est toujours un petit peu plus condensé en temps parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on veut. C'est le principe des festivals. En même temps, c'est génial parce qu'on rencontre des autres artistes. Peut-être il y aura une ou deux chansons un peu spéciales pour l'endroit qui vont sortir, mais j'ai pas mal de chansons qui me semblent correspondre à cet endroit. Et j'adore cette tournée parce que l'équipe est formidable et le groupe aussi. Donc c'est une des plus belles tournées de ma vie, donc je suis vraiment content de vous amener ça en espérant qu'on sera... à l'heure dans nos têtes parce que le voyage est long. On a une tournée qui s'appelle Pas Fini, donc là c'est la suite, s'appelle Pas Encore Fini.
Jean-Louis Aubert qui sera donc sur la scène des Francofolies demain soir au Centre culturel Tibaou. Il reste des places pour les 2 soirées, elles sont disponibles sur ticket.nc. Autre rendez-vous du week-end, le traditionnel marché de Mamie à Farino, un marché spécial Verte de Bancoul ce dimanche. Et pour en parler, Nicolas Legrand, vous recevez le maire de la commune.
Oui, effectivement, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Niotou. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer cet événement que les Calédoniens cochent dans le calendrier. C'est devenu incontournable ce marché spécial Verte de Bancoul.
Le marché du Verte de Bancoul, c'est un petit peu... la fête communale hein, qui se tient chaque année le deuxième dimanche du mois de septembre. Et donc voilà, une nouvelle édition qui s'annonce riche et avec des verres de Bancoul, on en a trouvé.
Ah, ça c'était un petit peu l'interrogation, il fallait aller chercher ces verres, il y en a.
Il y en aura pour tout le monde.
Bon, c'est une bonne nouvelle. On va retrouver les traditionnelles recettes et puis les concours aussi.
Oui, donc en fait, il n'y aura pas cette année de concours, qu'on appelle de bouffage et de fouillage. Donc la présidente du marché, Ghislaine Harly, était sur votre antenne il y a une semaine, elle vous l'a expliqué. Et puis on aura quand même la capacité de participer à un espace de fouillage, hein, des verres, et puis de dégustation avec plusieurs recettes. Ce sera la surprise sur place. Et puis à noter une manche du concours de barbecue, territorial de barbecue, une manche qui se tiendra commune à la Forte Bouraille la dernière fois et à la Forte Coumac dans une semaine. Il y aura une manche dans 2 semaines, il y aura une manche du concours de barbecue qui sera également tenu à Farino ce dimanche. Donc voilà, ce sera un très très bel événement, on attend beaucoup de monde. C'est pour cela qu'on a remis en place aussi le système de parking en bas du col avec des navettes. C'est important, je le précise, pour les auditeurs. Donc on laissera monter les voitures le col jusqu'à la place du marché et de la mairie jusqu'à ce qu'on ait plus de place. Et ensuite, on les dirigera vers un parking qui est en bas du col avec des navettes qui les guideront jusqu'à l'entrée du marché.
Donc tout a été parfaitement organisé pour qu'il n'y ait pas de situation difficile pour les automobilistes. Ils auront forcément de quoi pouvoir monter.
Tout à fait. On a 2 cols à Farino. Donc on sera dans un sens unique pour l'occasion, avec le soutien de la gendarmerie qui sera sur place. Donc, a priori, on devrait avoir un bel événement et on attend les calédoniens en nombreux ce dimanche à Farino. Ça sera une belle journée, on annonce du beau temps, donc ce sera un bon moment.
Encore une question, monsieur le maire, mais peut-être sous votre casquette de président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, on sait que ces événements sont très importants pour vous, vous y prenez du plaisir et pour vous c'est aussi un espace sur lequel vous pouvez mettre en avant les produits calédoniens, ce sera encore le cas sur ce marché ?
Avec le verre de Bancoul, on ne peut pas faire plus calédonien déjà. Hein, c'est, là, bonjour local, on ne pourra pas faire mieux. Hein. Mais après, on aura effectivement l'ensemble des produits importants sur les marchés, des produits frais de production locale, des produits transformés avec nos artisans et nos mamies de Farino et des villages alentours. Le concours de barbecue, qui est un concours, vous le savez, aussi suivi par la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui est un concours de barbecue mangeur local avec que des produits locaux, que ce soit les protéines ou les fruits et légumes qui sont servis. Donc voilà, c'est effectivement, je vous remercie de me donner la parole là-dessus. C'est important pour nous, les marchés, et ce marché de Farino en est également un emblème, quoi. C'est important.
Bon, ben, le rendez-vous est pris en tout cas pour dimanche, et ceux qui circulent sur la RT1, il suffit de piquer à droite à Fontvoirie ou à gauche, ça dépend si on descend ou si on monte, et on passe un bon moment.
Et on passe un bon moment, et on vous attendra sur place, et je vous assure un bon moment avec des animations musicales. Et puis il faut vraiment venir goûter au moins une fois dans sa vie le verre de Bancoul. Même si ce n'est pas obligatoire, quand on est sur place, il faut le faire.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Jean-Christophe Niotou, donc maire de Farino et président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Merci, Nicolas. Le rendez-vous est pris dimanche à Farino pour le marché de mamie spécial verre de Bancoul. L'actualité régionale à présent, la compagnie Fiji Airways, anciennement connue sous le nom d'Air Pacific, a confirmé qu'elle reprendra ses vols directs entre Nandi et la Tontouta dans les prochains jours. Le premier vol est programmé pour le 22 septembre. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces vols bi-hebdomadaires seront assurés par des appareils ATR 72-600 de Fiji Link, pouvant accueillir jusqu'à 78 passagers. Ils permettront à Fiji Airways d'offrir plus de 10 000 sièges par an entre les îles Fiji et la Nouvelle-Calédonie. La compagnie a indiqué que cette initiative va renforcer le réseau régional de Fiji Airways et améliorer surtout la connectivité entre deux des principales plaques tournantes du Pacifique. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, passé de 13 minutes. Seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
J'ai envie d'un Burger King, j'ai vraiment pas envie de bouger.
Nidit.
Commandez.
Déjà ?
Maintenant livré avec Nidit. Commandez sur www.nidit.nc.
Burger King.
L'événement familial. Le Festival international de magie du 11 au 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Des tours de magie incroyables pour petits et grands. Ne manquez pas ce Festival de magie les 11, 12 et 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Billets en vente sur ticket.nc.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Le sport sur le territoire avec du football et cette question, qui succédera à l'AS Magenta au palmarès de la Coupe de Calédonie? La 77e finale de la compétition est prévue ce samedi à 16h au stade Nomadélé. Nicolas Legrand.
Oui, d'un côté l'AS Cougnier, de l'autre Horizon Passo. Une finale inédite qui devrait attirer plusieurs milliers de supporters. Des supporters de l'île des Pins qui attendent depuis 1961 pour voir leur équipe remporter la Coupe de Calédonie. L'AS Cougnier est finaliste malheureux en 1984, en 1985, en 1987 et en 1992. Objectif donc, briser la série noire. Écoutez François-Louis Marie, l'un des trois coachs de la SK.
Cela fait 4 ans qu'il y a un travail de fait avec Kenji et Lucas Doué-Péré. Il y a une grosse progression sur le plan mental parce qu'il y a 5 ans, on avait du mal à gérer les émotions. On prenait des cartons rouges à chaque match. Il y a eu un gros travail de fait sur le plan tactique. Là maintenant, il y a beaucoup plus de discipline et de rigueur. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'hygiène de vie, ça commence à venir, mais c'est dès le plus jeune âge. Maintenant, effectivement, il y a eu des finales perdues, et ça serait une très belle chose pour tous les anciens, tous les vieux, tous les coutumiers qui sont passés par là, qui ont eu de grosses déceptions, ça serait une très belle chose pour eux de remporter ce match-là.
Et face à l'AS Kouni, on retrouve Horizon Passo. C'est la première fois que les joueurs de Marais se qualifient pour la finale de la Coupe de Calédonie. Et c'est déjà une belle réussite pour Charles Béarounet, dirigeant d'Horizon Passo.
On a eu des recrutements en début d'année. Donc, en même temps aussi, on a eu beaucoup de joueurs blessés. Donc, il a fallu composer avec les joueurs qui sont là, disponibles. Voilà, le résultat est là. On est en finale de la Coupe Calédonie. Je tire chapeau à mes joueurs, tous les membres du staff pour le travail accompli. L'objectif, c'est quand même de lever ce titre-là qui manque au palmarès du club en 91, ensuite en 2016 et puis l'année dernière, en 2025. On n'a pas pu franchir les demi-finales. Donc là, on est en finale. Et puis, l'objectif, c'est de lever le titre. On n'attend plus que ça.
Et samedi, les tribunes du stade Numadélès seront parées de rouge, de jaune et de bleu. Les deux clubs ayant mis en vente des t-shirts aux couleurs de leur équipe. Coup d'envoi de la 70e finale de la Coupe de Calédonie. Ce sera à 16h. L'entrée est payante et elle est à 300 francs.
Football encore, mais on parle des sélections calédoniennes. Cette fois, les U20 féminines disputent à minuit le deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Après une défaite 5-0 contre la Chine, elles affrontent l'Espagne. Les U16 féminines toujours seront opposées dès 19h ce soir au Samoa, ce sera le deuxième match du tournoi OFC. Lors de la première rencontre, elles avaient battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée 5-2. Enfin, les garçons de moins de 19 ans joueront demain à 13h la demi-finale du tournoi OFC contre la Nouvelle-Zélande. En cas de victoire, les Calédoniens se qualifieraient pour la finale, mais aussi et surtout pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. On termine avec un mot de handball. Les Calédoniennes se lancent ce soir à l'assaut du premier IHF Trophy Senior, une compétition régionale qui se dispute en Nouvelle-Zélande. Nos représentantes retrouveront à 18h Kiribati avant d'affronter les îles Cook demain, puis la Nouvelle-Zélande samedi. Ce sera leur dernier match de groupe. 18h17, place à la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
On ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune, vent violent pour un vent de sud-est pouvant dépasser les 25 nœuds avec des rafales de l'ordre de 35 nœuds sur le nord-ouest de la Grande Terre de Pointe-Boutapoum pour demain après-midi. 6 communes donc sous le coup de cette vigilance jaune. Ce soir, une bande nuageuse remonte du sud vers le nord en cours de nuit. En conséquence, le ciel est temporairement très nuageux avec quelques averses isolées sur le sud en début de nuit puis également sur l'ouest et les Loyautés. En fin de nuit, sinon, les étoiles restent visibles. Les températures la nuit oscillent entre 16 et 19 degrés et localement 10 à 12 degrés dans l'intérieur et aux Loyautés. Pour demain matin, sur la moitié sud de la Grande Terre, l'île des Pins et une bonne partie de la côte ouest, le ciel deviendra nuageux à très nuageux, mais les averses seront rares. Ailleurs, le soleil sera plus généreux. L'alizé de sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds. Cependant, il sera moins fort sur la côte est, proche de 10 nœuds. On termine avec les températures et comme les jours précédents, les maximales resteront inférieures au normal de saison avec 20 à 25 degrés.